Au cœur de Servières, la maison de Françoise Emamé accueille depuis quelques mois une exposition de photos, Réminiscence. Cette exposition est le fruit d'une rencontre et d'une amitié entre deux hommes, Robin Brunet, maraîcher et propriétaire de la maison, et Julien Bénard, photographe. Robin a racheté cette vieille bâtisse dans le but de la rénover, pour y installer son atelier de transformation. Et Julien, aidant son ami dans les travaux, souhaitait photographier les objets trouvés dans cette maison pour en garder la mémoire. C'est ainsi qu'une exposition est née dans la salle voûtée au rez-de-chaussée. Puis des artistes sont venus, déveillés sur des bottes de paille. Je suis allée rencontrer Julien Bénard pour découvrir ce lieu et ce projet. Rendez-vous au 27 Traverse des Centenaires. Un reportage in situ dans cette salle hors du temps, avec Julien qui nous raconte l'histoire de cette maison, son travail photographique et surtout la création d'un lieu de culture, de mémoire et de partage.
Voilà, bienvenue
chez Françoise Emamé.
T'as vu comme il fait froid. Cette maison, la première trace qu'on ait date de 1668, qui est la partie centrale de la maison dans laquelle il y a les tables où il y a l'exposition. Et ensuite, la maison a été agrandie de différentes manières, en largeur, en hauteur, au fil des siècles, et on ne sait pas forcément quand. Donc là, l'entrée, on est dans une partie qui a été ajoutée après la première construction. À côté de l'entrée, on a une pièce qui a sans doute servi à une époque de cuisine. Ensuite, on sait qu'elle a servi pour le cheval ou le mulet. Et à la fin de la vie de la dernière propriétaire avant Robin Brunet, elle a servi de chambre. Donc c'était la fameuse Françoise Forbrach, qui était l'épouse de Mamé Forbrach. Et donc c'est les derniers habitants de cette maison. Donc Mamé est décédée à la fin des années 80. Françoise lui a survécu jusqu'en 2012. Elle a été centenaire, c'est d'où le nom de la ruelle qui s'appelle la Traverse des Centenaires. Ils vivaient ici seulement 6 mois de l'année. Ils avaient une vie saisonnière, comme tous les agriculteurs ici. Et donc ici, donc, qui étaient les quartiers d'hiver, ils vivaient tous ensemble dans l'étable. Donc animaux et le couple pour se tenir chaud.
Et en haut ?
Et en haut, alors au-dessus de nous, au-dessus de l'entrée, on a deux chambres qui se succèdent. Le deuxième, c'était plutôt du stockage. Et ensuite, au-dessus, ce sont que des granges. Donc c'est une maison qui est absolument énorme. En fait, c'est un immeuble qui fait, je crois, 186 mètres carrés au sol sur 17 mètres de haut. Voilà, alors bienvenue dans l'étable, qui était la pièce à vivre. Donc là, on a une salle voûtée qui est magnifique, avec une colonne centrale qui n'est pas hyper fréquente à Servières et qui fait 60 mètres carrés en tout. Et donc, c'était la pièce où on avait tous les animaux, donc avec leurs compartiments respectifs, avec les mangeoires, les râteliers. On avait là, tu vois, les crochets où il y avait la planche pour les poules qui dormaient en hauteur. À gauche, là-bas, tu vois la sortie du poêle. Et le lit était ici, contre la colonne. Et sous le lit, il y avait les agneaux ou les chevreaux. Voilà, donc on avait tout ça dans cette pièce qui était remplie à ras-bord d'une certaine manière. Et moi, quand je suis revenu une première fois en 2012 après le décès de Françoise et l'année dernière, en 2023, quand Robin Brunet a racheté, en fait, c'était toujours exactement comme avant. Rempli, rempli, rempli. On a passé beaucoup, beaucoup de temps, surtout Robin, et moi je l'ai aidé, à débarrasser, à décaisser le sol. On a décaissé, je pense, entre 20 et 50 cm selon les endroits. On a gagné une hauteur maintenant sous plafond qui est extrêmement agréable.
Ça fait combien, là ? 2 mètres ? 2 mètres 50 ?
Eh bien, le plus haut... Oh, je pense que, je sais pas, ouais, peut-être 2 mètres 50. Et donc, pour la petite histoire, c'est aussi à force d'être dans cette pièce d'aider Robin et puis de retrouver cette maison que j'ai connue enfant vraiment souvent que je me dis, mais c'est magnifique, même dans l'état dans lequel c'était. Et là, le chantier n'est pas fini. Et qu'un jour, Robin m'a dit, mais tu veux faire une expo ? Voilà, donc c'est comme ça qu'est née l'histoire.
Et toi, comment tu es arrivé dans cette histoire ? Comment tu as rencontré Robin ? Ou comment tu es arrivé à Servières même ?
Alors, je suis arrivé à Servières parce que mes grands-parents maternels sont arrivés à Servières en tant que vacanciers dans les années 60. Ils ont un coup de cœur la première année où ils sont venus faire du camping. Et de fil en aiguille, ils ont été, je crois, les premiers à demander s'il y avait des locations saisonnières, ce qui... d'après ce qu'on m'a raconté, a beaucoup fait rire les Serverins à l'époque. On est vraiment à une époque où il n'y avait pas du tout ce genre de pratique. Et ensuite, mon grand-père, donc maternel, André Gatineau, a souhaité prendre sa retraite ici, venant de Paris. Et donc, ils sont installés ici. Et il a été, je ne sais pas si on dit désigné maire en 1974. Et en 79, mes parents, avec donc ces grands-parents-là, ont décidé d'acheter ensemble une maison. Eux pour y habiter et mes parents pour nos vacances à nous. Donc c'est devenu un peu le QG de vacances de la famille depuis cette époque-là.
D'accord, donc tu venais en vacances et aujourd'hui tu y vis.
Donc je venais en vacances, en fait, presque 4 mois par an en vrai, puisqu'on venait beaucoup ici. Et puis il y a ensuite une période un peu différente où moi je vivais à Paris, je suis devenu photographe vraiment et je suis venu travailler ici régulièrement pour faire des images. Et en 2020, finalement, sans être très original par rapport à un mouvement de masse qui s'est produit, je suis venu passer la deuxième partie du confinement ici. Et voilà, et donc je ne suis pas reparti en fait.
Ah oui.
Donc ça fait 4 ans.
Tu connaissais déjà Robin ou tu l'as rencontré pendant ces 4 dernières années ?
Alors Robin Brunet, donc, est le maraîcher de Servières depuis quelques années, après qu'il soit rentré d'Afrique, fait partie
le
de la...
Le seul, je te coupe pas. Hein.
Le seul maraîcher de Servières, et je pense le seul qui ait jamais eu, en fait. Je crois que c'est le seul, ça n'a jamais existé. Même si les gens vendaient un peu des productions, mais ce n'était pas des maraîchers. Robin, je ne l'ai jamais vu de ma vie avant, il y a 2-3 ans. Et on a dû très probablement se rencontrer au champ. Puisque les potagers, le potager où je travaillais... Et lui qui est maraîcher, mais il travaille un peu partout, notamment pas mal là-bas. Et il est venu, sans doute, je ne sais pas, la première fois, voir comment on travaillait. Et puis il nous a beaucoup aidés, beaucoup donné de conseils, prêté du matériel. Et on est devenus très très bons amis, sans le décider, je pense.
Et d'où est venue l'idée de collaborer autour de ce projet ?
Alors il n'y a pas eu l'idée de collaborer. En fait, tout s'est passé de manière imprévue. Et de manière hyper joyeuse, c'est-à-dire que quand, en 2023, Robin m'annonce qu'il va acheter cette maison, moi je suis hyper content, parce que bon, je suis content pour lui, parce qu'il peut réaliser ses projets, et je suis aussi content en disant « je vais pouvoir revenir dans cette maison ». Parce que c'est un endroit où, enfant, dès qu'on revenait, on arrivait d'Île-de-France, on venait dire bonjour à Françoise et Mamé. Donc moi j'ai beaucoup de souvenirs. Et quand elle est décédée, Françoise, j'avais déjà demandé les clés pour faire quelques photos, donc en 2012. Donc du coup je me dis « génial ». Et je dis à Robin, est-ce qu'au fait, je pourrais refaire des photos ? Donc ça commence comme ça. Et je fais un sort d'inventaire, mais assez rapide, en me disant, il travaille tellement vite en général qu'il va faire un chantier, tout va disparaître, tout va changer. J'ai envie, moi, d'avoir une mémoire, mais juste sans penser plus loin. Ça, c'est 2023. Et puis après, il y a le moment où lui, donc, il a racheté cette maison, entre autres, pour y installer un atelier de transformation alimentaire. Donc, il fera ici des soupes, des confitures, de la charcuterie sèche. Donc, lui, il a un planning en tête. Et puis, voilà. Et puis, après, de fil en aiguille, il y a le moment où il me propose de faire cette expo parce que je m'extasie en permanence devant les lieux. Il y a le moment où on se dit, OK, on est fou, on le fait. Donc, on fait le chantier, on rénove. Et ensuite, on fait un événement commun. C'est-à-dire que moi, je fais un vernissage. Et lui, il fait l'annonce de ses futures activités alimentaires ici. Et on fixe une date. On est en plein hiver, on se dit, bon, bah, le week-end de Pâques, on fait ça. Après, moi, je me dis, bon, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait, en tant qu'image ? C'était pas si évident que ça au début. Donc je réfléchissais entre des archives, entre des portraits de Cervérens, j'avais plein d'idées jusqu'au moment où il y a une photo que j'avais faite en décembre qui est faite sur la table qui était là, où en fait Robin avait sorti la bouteille de poire, parce qu'il faut savoir qu'il y a une armoire à Niol dans la maison. Et je trouve ça tellement beau, la bouteille, 3 petits verres, je fais cette photo. Et en fait je l'avais imprimée chez moi et je la voyais tous les jours du coup. Et tous les jours je me disais, me fait du bien. Et donc à un moment, bah, Eureka, c'était une évidence que le seul sujet que je pouvais présenter ici, c'était des nouvelles photos que j'allais faire d'objets que je trouverais dans la maison. Il faut que tu viennes de l'autre côté.
Je te suis.
Ouais. Ouais, j'étais à cette hauteur-là tout le temps, à essayer de trouver le truc, à aller redéplacer parce que le soleil tournait. Et voilà. Et cette image, moi je l'aime beaucoup parce que c'est aussi le côté très ludique de tout ce chantier, c'est tous les moments où, avec Robin, on trouve des objets. Et donc, quand on trouvait ces petites fioles, en fait, à chaque fois, ah, c'est comme les gamins qui... c'est la caverne d'Ali Baba, regarde ce que c'est. Le chantier a repris en début d'année. Je suis venu aider Robin régulièrement. Et puis, à un moment, il m'a dit, là, t'as 3 semaines pour faire les photos, parce qu'après, je reviens bosser là. Et donc là, j'ai bossé en février, ici, dans la pénombre et le froid glacial de février, presque tous les jours, plusieurs heures d'affilée, parce que la lumière... la lumière que je voulais, c'était une lumière très tamisée. J'ai tout fait en lumière naturelle. Et après, il a fallu... Les objets, je les cherchais, je les trouvais, j'improvisais aussi, même ça. Et après, quoi faire? Je cherchais, je pense, comment rendre grâce à ces objets, à leur rendre une certaine vie, tout en sachant pas si j'allais y arriver ni comment j'allais le faire. Parce que c'est la première fois que je fais un vrai travail de nature morte.
J'allais te demander si tu avais déjà travaillé sur des natures mortes.
J'ai jamais travaillé sur des natures mortes de manière suivie. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, comme beaucoup de gens, de voir un bouquet, un objet qu'on trouve beau, qu'on prend en photo. Mais j'ai jamais travaillé ça en tant que sujet. Et donc ça a été un exercice absolument génial, hyper intéressant pour moi d'un point de vue professionnel, parce que c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. C'est pas parce qu'on trouve un bel objet, par exemple tu vois cette boîte à sel, c'est très joli avec cette petite boîte à côté, c'est pas parce que tu la vois que t'es capable de rendre cette beauté, en fait. De rendre quelque chose qui toi te parle, sachant que moi quand je travaille, il y a un moment où je sens que ça peut être bon, mais après il me faut en général du temps. Je laisse presque oublier mes images et il faut que je ressente les mêmes vibrations quasiment au niveau du ventre pour me dire oui, celle-là, elle me parle. Et je ne sais pas forcément expliquer pourquoi celle-là me parle. Ça peut être le cadrage, la lumière, l'émotion, qu'est-ce que ça évoque, qui fait que je vais choisir sur cette boîte parmi peut-être 200 photos, parce que j'aurais peut-être bossé 2 jours sur la même boîte ou même endroit de la pièce. Je vais choisir plutôt celle-là que celle-là. Et il y a un deuxième moment où ça va être l'assemblage de tous ces petits choix. Et ça, il faut que ça marche aussi.
Ah oui, l'assemblage des photos entre elles.
Voilà, ce qu'on appelle la série d'une certaine façon. C'est qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qui fonctionne ensemble. Ça, c'est le moment extrêmement important, avec beaucoup toujours d'inquiétude, parce qu'on n'est pas sûr que ça va marcher. Et donc, moi, je voulais générer à travers ces images une atmosphère. L'atmosphère que moi je ressentais, que j'avais ressenti en entrant dans cette maison, c'est-à-dire quelque chose d'un peu endormi, d'assez doux, où on sent que le temps a passé, mais en même temps il y a de la vie, parce que pour moi il y a eu beaucoup de vie autrefois, et la lenteur des gestes de Françoise en fait, qu'on ne voit pas, il n'y a pas de personne dans ces photos, mais moi c'est une des choses qui m'a le plus marqué, je dirais, de mon enfance, c'est la lenteur.
Quand la neige fond dans les fonds, quand la tiédeur enfin se palpe, quand le torrent joue du typhon, on va bientôt monter à l'Alpe, bientôt se remettre à l'ouvrage, chante tout bas l'œil allumé, de vieux habitants du village. Françoise et Mamée, tous les ans la vaillante mule porte la maison sur son dos, sa piaille, sa tintinabule, sa miaule écrit sur le bardeau. Le chien s'en donne à perdre rage sur le troupeau enthousiasmé. On voit s'éloigner du village Françoise et Mamée. Viendront les foins, la canicule et la naissance des chevreaux, les incendies du crépuscule, la source qui pleure son eau. Quand le randonneur des alpages s'arrête sans rien réclamer, qui le requinque de fromage. Françoise et Mamée, là-haut vous savez les nuages et prévoir la couleur du vent. Tout est rentré avant l'orage, on ne surprend pas les savants. Quand pour de bon la neige scalpe sur tous les fronts, tous les sommets, on voit redescendre de l'Alpe Françoise et Mamet. Le chemin qui gravit la pente se grave en style quotidien, comme une phrase qui serpente dans le chapitre des anciens. Tant à trottiner votre mule sur la page du résumé, qu'on peut y lire en majuscule Françoise et Mamet. Qu'on peut y lire en majuscule Françoise et Mamet.
Étape 1, on fait les photos. Étape 2, on sélectionne sur chaque portrait ou chaque série de photos, 2-3 photos qu'on se dit ça, ça vaut le coup. Étape 3, on va mélanger avec les autres photos pour voir si ça marche. Étape 4, on fait un premier tirage pour voir si ça passe. Et donc la dernière étape, c'est le moment de la scénographie. C'est le moment où on amène les images dans la salle. J'ai commencé par le panneau qui est au fond à droite. J'ai commencé avec une image qui est celle-ci.
Oui, elles sont toutes là sur la table alors.
Voilà, je les ai toutes mises à plat parce que les murs sont encore en train de suinter des enduits qu'on a mis pendant l'hiver. Donc du coup, pour éviter l'humidité, elles sont sur une table près de la fenêtre. Donc cette photo représente quelque chose de très important et très émouvant. C'est le bonnet de baptême du seul enfant qu'ils ont eu et qui malheureusement est mort au bout de quelques jours, Françoise et Mamé. Moi, je connaissais cette histoire et quand j'ai trouvé cette boîte dans laquelle il y avait ça et puis les petits bavoirs, je me suis dit, je trouvais ça extrêmement émouvant. Très beau aussi parce que c'est tout en dentelle. Et je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à faire une image de ça. J'ai passé 2 ou 3 jours pour essayer de trouver comment rendre intelligible ce qu'on voyait, parce que c'est un bonnet qui est, voilà, qui est pas bombé. Hein. Là, je l'ai bombé avec d'autres tissus, etc. Le rendre intelligible, le rendre poétique, non morbide, gracieux, vivant et pas ridicule, à peu près. Et à un moment, j'ai fini par me dire, je crois que celle-là, ça fonctionne. Donc, j'ai commencé par celle-là en me disant, c'est celle-là. Et après, je me suis dit, j'essaye avec 2 autres images dont on a l'impression que le photographe était à peu près à la même distance physique de son sujet. Et ça a fonctionné super bien. Donc, ça m'a fait mon premier mur. Après, il y a eu le deuxième mur, etc. Et quand je reviens le lendemain, sur ma main, et après, je dis, ça tient. Et ça, c'est totalement imprévisible. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut que pour moi, ça sonne juste au moment où je suis là.
Comme quoi ? Ouais, génial, ça marche.
Et tu vois, sur celle-là, soit tu dis, bon, ben, on voit des bouteilles, soit tu rentres dans l'atmosphère. Et moi, j'ai espéré que je partais un peu ailleurs. Et puis, voilà, ça, après, c'est les petites leçons de photographie. Là, je ne sais pas si tu enregistres encore, mais je pourrais te raconter chaque image.
Ces 19 photographies, elles ne marchent alors que dans cette scénographie. Tu ne vas exposer qu'ici ?
Est-ce que je vais exposer ailleurs ? Je ne sais pas. Pour le moment, je rouvre l'exposition cet été, là, en gros mi-juillet, mi-août, avec d'ailleurs des événements que j'organise. Je me concentre sur ça parce que je suis vraiment content de faire ça profondément. C'est quelque chose qui me fait du bien et je suis content de pouvoir le partager. On a eu la chance d'avoir 200 visiteurs à l'inauguration en mars. Ensuite, j'ai eu plus de 120 visiteurs qui sont venus sur les semaines qui ont suivi où je n'ouvrais que les week-ends. Donc c'est déjà incroyable pour moi d'imaginer ça, parce que Servières n'est pas du tout identifié comme un lieu où il y a de l'art, en fait. Et ce qui est assez touchant, à travers les visites ou les événements que j'ai déjà commencé à organiser, c'est que les gens restent et les gens racontent aussi des histoires. Ma voisine qui est venue un jour, elle m'a dit « Merci de ce que tu fais pour nous ». Et j'ai compris ce jour-là qu'en fait, sans penser à ça, j'étais un des maillons de la transmission de la mémoire de ce village, en mettant en valeur une partie de leur patrimoine, parce que ce qu'on voit dans les photos, 100% des Serverins savent ce que c'est plus ou moins. Et donc, il y a quelque chose de collectif en fait, dans ce travail, du début jusqu'aux années qui vont suivre certainement. C'est tout le temps collectif, c'est tout le temps ensemble. Ça commence avec Robin, il y a sa sœur, il y a un autre ami qui s'appelle Hermino qui vient nous aider. Et puis ensuite, il y a les visiteurs, il y a les artistes. C'est un lieu de partage. Et ça, pour moi, j'ai toujours été sensible à l'idée de faire du lien. Ici, c'est extraordinaire parce que ça s'y prête hyper bien. Et les gens se sentent bien quand ils sont là. Et puis, C'est juste incroyable, en fait, en tant qu'artiste, de pouvoir vivre ça. Enfin, en tant que personne, en tant qu'artiste, pouvoir créer ce monde-là quelque part. Quand Robin m'a dit « je te laisse les clés pour tout l'été si tu veux faire des trucs dedans », eh bien, quand j'ai commencé à en parler à des artistes ou autres, eh bien, très rapidement, les gens qui sont venus ici ont trouvé ça hyper agréable, hyper inspirant comme endroit. Et donc, ils ont confirmé. Alors, on a commencé par un atelier avec des enfants. On a travaillé sur les natures mortes, en dessin, en peinture, et avec des histoires qu'ils ont inventées eux-mêmes. Ça, c'était le premier moment où quelqu'un d'autre venait s'approprier les lieux. Ensuite, j'ai accueilli la chanteuse Laura Mallet pour faire un concert qui était juste magnifique. Ensuite, il y a eu déjà aussi donc l'écoute du documentaire fiction de Claire Gatineau qui s'appelle 2000 mètres, qu'elle a réalisé à Servières. En tout cas, voilà, je deviens pareil, sans l'avoir prévu, programmateur d'une salle
éphémère.
C'est
ce que j'allais dire. Finalement, ça devient une salle d'action culturelle,
voilà.
D'activité culturelle.
Exactement, une salle d'activité culturelle, de rencontres humaines, de plaisirs partagés. On passe beaucoup de temps aussi à manger, à boire des choses autour de toutes ces animations. Moi, je n'ai jamais pensé que je ferais ça de ma vie. Et donc, c'est délicieux parce qu'aussi, on est totalement libre.
C'est éphémère aussi, puisque la maison va finalement être occupée par Robin.
Oui, c'est éphémère. Alors, c'est un éphémère dont on sait...
à long terme.
Voilà, peut-être que les choses vont bouger. Ce qui est sûr, c'est que la salle, cette grande étable, est éphémère. Puisque à partir de sans doute de septembre, Robin va venir faire son chantier pour faire son atelier de transformation alimentaire. Mais il reste tous les autres étages. Et Robin m'a déjà dit, en rigolant ou à moitié, est-ce que tu veux faire une exposition dehors dans la courette ? Donc la courette qui est à ta droite, qui est méga encombrée.
Ah oui.
Eh bien, ça devient un espace très intéressant. Et ensuite, il y a les étages de grange. Il y en a un qui est super beau, qui est très grand, où je vois très, très bien une exposition et des événements. Si Robin est toujours OK, dans un an, dans deux ans, j'en sais rien. Et puis après, il peut y avoir ailleurs. Moi, je vais continuer à photographier la maison. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai envie d'aller au bout de la démarche en me disant, c'est une chance incroyable que Robin m'ait ouvert les portes de cette maison. Je vais au bout. Ça prendra peut-être 2, 3, 4 ans, j'en sais rien. Et l'étape ultime, c'est d'aller à l'Alpe du Pied, qui est donc le chalet d'alpage de Françoise et Mamé, qui n'a pas bougé depuis des années, et dont j'espère bien que le propriétaire actuel, donc leur neveu, retrouvera les clés pour que je continue à travailler là-haut, et à terme, un vernissage festif là-haut dans la montagne.
On en est donc qu'au début de toute cette histoire.
J'y compte bien.
Julien organise des événements tout au long de l'été. Le vendredi 26 juillet, il accueille le duo That's My Girl, pour un concert country folk. En août, un atelier vocal et une soirée conte musical. Son exposition Réminiscence est ouverte de mi-juillet à mi-août, les jeudis, vendredis et samedis, de 14h à 18h. Retrouvez tous les événements de la maison de Françoise et Mamé sur le site de l'Office du tourisme de Servières. La musique que vous avez entendue dans ce reportage est une chanson de Jacques Cerisier, intitulée sans surprise Françoise et Mamé.